Le grand rendez-vous de l'épargne. Une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Julien Bouissou.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce tout nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne. Chaque mois, nous décryptons ensemble l'économie, les placements, l'épargne avec nos invités, notre grand témoin et nos experts. Et pour présenter cette émission, je suis en compagnie de Julien Bouissou, mon compère, chef de service argent et placement au magazine Capital. Bonjour Julien,
bonjour, comment Fabrice. Ça va? Ça va bien.
Qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce 14e numéro?
Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la pierre de rendement, l'immobilier de rendement. Alors qu'il s'agisse d'investir en direct dans l'ancien, dans le neuf, ou dans les sociétés civiles de placement immobilier, les fameuses SCPI, on va se demander s'il est encore temps d'investir, et surtout si avec la crise, le rendement va se tenir, si on pourra toujours compter, recevoir, percevoir les loyers. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, deux spécialistes de la question, comme d'habitude. Tout d'abord, Antoine Depigny, qui est le directeur du développement de Primonial, une des plus grosses sociétés de gestion spécialisées dans l'immobilier aujourd'hui. Bonjour Monsieur Depigny.
Bonjour.
Et également avec nous Emmanuel Nara, qui est le président d'Haussmann Patrimoine, qui est un cabinet de gestion patrimoine et évidemment qui a l'habitude de traiter ses produits immobiliers. Bonjour Monsieur Nara. Bonjour.
Et voilà une question d'actualité à un moment où les Français ont énormément d'épargne, sont peut-être en train de réviser leurs projets de retraite, de choix de vie. On le sait, ça bouge beaucoup en ce moment. La période est propice aux interrogations, encore plus si on est obligé de rester chez soi. Alors, comme d'habitude, Julien retrouvera le coup de cœur, le coup de gueule de Pierre Sabatier, le président de PrimeView. Et puis, en fin d'émission, Thibault Lamy nous rejoindra, journaliste à Capital, ainsi que les experts pour la rubrique « Ça vous concerne ». On prend chaque mois les questions qui vous arrivent à la rédaction de Capital et on les décrypte avec nos experts. Voilà, le grand rendez-vous de l'épargne spéciale immobilier, c'est parti.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
Alors, deux grands témoins aujourd'hui, Antoine Depigny, directeur de développement de Primonial REM, Emmanuel Nara, président d'Haussmann Patrimoine, avec une première question. On a vu que malgré les confinements, malgré une année en dents de scie, l'immobilier a extrêmement bien résisté. Et l'immobilier résidentiel, comme l'immobilier de bureau, puisque on a vu les rendements services sont tout à fait corrects. Antoine Depigny, un premier commentaire sur cette année, finalement, de résistance.
Ah oui, c'est vrai que depuis 2008, on a vu très clairement que l'environnement de taux bas a permis de soutenir les valeurs et de façon vraiment très, très continue. Et cette année, finalement, n'a pas fait exception. Donc, on a continué à voir les valeurs augmenter. Et cet environnement de taux bas, ça permet quoi? Ça permet, un, de rendre les ménages solvables, donc ils peuvent continuer à emprunter à des taux qui sont très favorables et à soutenir l'économie, notamment en résidentiel. Et ça permet également aux investisseurs de considérer l'immobilier comme un placement à la fois rentable, donc largement plus rentable qu'un certain nombre de placements qu'on dit un peu sans risque, comme les fonds euros, et beaucoup moins volatile que les fonds euros. Donc clairement, ce n'est pas irrationnel comme augmentation de valeur. Et si on prend un tout petit peu de hauteur, c'est même assez normal. On continue à voir un vrai décalage entre l'offre et la demande, notamment sur le résidentiel et notamment sur les grandes métropoles régionales. Je crois qu'au final, le vrai mouvement, et ce qui est vraiment notable sur cette année, comme l'année dernière, c'est la poursuite du phénomène de métropolisation. Et donc, c'est cette polarité beaucoup plus importante qu'on voit sur les grandes métropoles régionales. Alors, on connaît évidemment Bordeaux, on a vu aussi...
Bordeaux, Nice, Lyon, Nantes...
Rennes, la liste est longue, voilà. Ouais.
Et de votre côté, M. Nara, alors quel constat sur les prix de l'immobilier, justement pour vos clients, vous leur conseillez ces grandes métropoles où apparemment les prix tiennent bon toujours et encore?
L'immobilier tient une place à part dans le patrimoine des Français. Il y a toujours eu une forte appétence pour la pierre. Et à chaque fois qu'une crise arrive, j'ai envie de dire, cette appétence, elle se renforce parce que l'immobilier, c'est quelque chose de concret, tangible, accessible à beaucoup de monde, finalement beaucoup plus que les marchés financiers qui sont parfois compliqués à comprendre et stressants aussi compte tenu de la volatilité.
Très volatile, surtout en 2020, comme disait un des patrons effectivement d'une maison de gestion, le prix de l'immobilier n'est pas marqué sur la porte tous les jours, contrairement à la bourse, où on voit ses valeurs monter et baisser. Je crois que c'est Eric Pinon de l'AFG qui dit ça justement.
Oui, et en plus, les personnes ont plus de facilité à évaluer le prix d'un bien immobilier parce que c'est quelque chose d'assez concret et à un moment donné, ils savent déterminer que le prix qu'on leur proposerait serait absurde. alors qu'en bourse, ils manquent de repères et dire que le prix de leur action est absurde. Ils voient que ça baisse, ils vendent. En immobilier, il arrive un moment où quand ça baisse trop, on ne vend plus.
D'accord. Donc, toujours positif sur, sur cet investissement au niveau des prix.
Aujourd'hui, c'est quand même un des actifs qui sert le rendement le plus élevé. Hein. Si on fait le tour de tous les actifs, on va toujours retomber au final sur l'immobilier pour avoir du rendement. Et encore une fois, c'est un actif tangible. Donc, il y a une vocation déjà durable. Il y a un vrai besoin. Ça correspond à une nécessité, se loger, de travailler. Donc, ça
n'a
pas changé.
Avec la crise, il y a quand même quelques inquiétudes, on va dire, sur le rendement, sur la façon de percevoir les loyers, alors que ce soit
il y a toujours des
sur le résidentiel, puisqu'on peut imaginer hausse du chômage, faillite, etc. Donc, peut-être souci avec son locataire ou dans l'immobilier tertiaire, on va dire, tous les commerces ne vont pas bien. Est-ce qu'ils vont pouvoir aussi assurer le versement du loyer? Comment vous vous positionnez, peut-être, monsieur Dupigny?
Alors, si on regarde vraiment l'année 2020, et notamment sur les SCPI, je vous parlerai plutôt des SCPI de Primonial REM, ce qu'on constate sur l'encaissement des loyers, c'est que nous, on n'a quasiment pas de différence sur l'encaissement des loyers sur les bureaux, par exemple. Donc, sur notre SCPI Primopierre, qui est spécialisé en immobilier de bureau, on encaisse presque 98% des loyers. Donc, c'est un niveau totalement normal. Sur l'immobilier de santé, notre SCPI Primovie, 99%, donc pas de différence. C'est une catégorie qui, évidemment, a souffert, on va dire, dans sa chair. Ça a été évidemment très compliqué pour ces acteurs, mais d'un point de vue purement financier, ça n'a pas changé grand-chose. Et pour l'immobilier de commerce, on a une SCPI qui est spécialisée en immobilier de commerce, qui est la SCPI Patrimo-Commerce, on a encaissé plus de 87% des loyers. Donc on voit que sur une année quand même assez compliquée, on réussit quand même à encaisser la très très grande majorité des loyers et du coup à maintenir ces valeurs. Sur la partie résidentielle, évidemment, il y a eu énormément de mesures de soutien qui ont permis aux locataires de continuer à payer leur loyer. Et j'imagine que c'est ce qu'on voit sur l'immobilier direct et c'est ce que nous, on constate également sur l'immobilier indirect.
Mmh. Monsieur Nara, sur l'immobilier indirect, vous avez eu des bailleurs, propriétaires qui ont eu des soucis ou ils ont décidé peut-être de souscrire des assurances loyers impayés? Enfin, comment ça s'est passé?
Les personnes qui ont investi en direct, c'est binaire. Soit ils ont un problème avec leur locataire et ils peuvent très bien ne pas avoir touché de loyer depuis un an, ou alors tout va bien et peut-être même que leur locataire profite de la crise, parce que évidemment dans toute crise il y a des perdants et des gagnants. Donc ça n'est pas uniforme. Donc les personnes qui ont un patrimoine mutualisé, je pense notamment à ceux qui détiennent des SCPI, puisque c'est vraiment le point fort de la SCPI que de mutualiser les immeubles, les régions, les types d'actifs et le nombre de locataires, ceux-là n'ont pas eu de gros incidents. Il y a eu quelques SCPI qui se sont un peu moins bien comportés que la moyenne, mais c'était prévisible. C'est sûr qu'une SCPI qui se spécialise dans l'hôtellerie,
les hôtels,
c'est une année compliquée, il n'y a pas besoin d'être expert pour le comprendre. Mais des SCPI diversifiés ont parfaitement joué leur rôle justement d'amortisseur.
Est-ce que justement, si on fait un peu de prospective, comment vous voyez cette année 2021? Alors plutôt pour les SCPI, on sait qu'il y a beaucoup d'épargnants qui se sont rués sur ce placement ces dernières années, qui peuvent donc être un peu inquiets. Est-ce que voilà, ces défauts, entre guillemets, s'il y en a eu, vous parlez de taux de recouvrement, enfin des loyers de 80 ou 90%, est-ce qu'on est sur la même tendance ou est-ce que ça commence à devenir compliqué pour certains?
Non, alors peut-être déjà pour revenir un petit peu sur cette tendance, 2020 pour le marché des SCPI, c'est une année de collecte très importante. Alors évidemment, un tout petit peu plus faible que l'année dernière, qui était une année record, mais qui est quand même une année extrêmement importante. Primonial REM, par exemple, on a collecté plus de 850 millions d'euros sur les SCPI. Donc c'est vraiment le signe que cet amour, et en tout cas cette adhésion des investisseurs continue en 2020. Et nous, on anticipe que sur 2021, les collectes devraient continuer à être importantes, soutenues par des performances qui sont plutôt très positives. En 2020, la performance moyenne des SCPI, c'est 4,18 en taux de distribution. Nous, on est autour de 4,60. Donc c'est quand même des éléments qui sont très, très positive et on anticipe finalement que l'environnement de taux bas, que toutes les actions d'asset management qu'on a pu faire avec les locataires les plus compliqués en 2020 vont porter leurs fruits en 2021. Et donc, on a des anticipations de performance qui sont plutôt bonnes et qui vont continuer, à notre sens, à produire leurs effets en 2021.
Et est-ce que la principale menace, quand on se projette dans les mois à venir, ce n'est pas la réduction des surfaces louées, hein, avec le développement du télétravail dans toutes les entreprises? Comment vous l'anticipez, ça? Ça va forcément impacter le rendement, le loyer.
Alors, effectivement, c'était le débat qui a animé notre microsphère d'investisseurs institutionnels et de SCPI en bureau. La réponse, elle est très claire. Hein. Le télétravail ne va pas tuer l'investissement en bureau. Le télétravail, ce n'est pas la fin du bureau. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, la plupart des études qui paraissent aujourd'hui montrent que les Français, les travailleurs, les patrons sont plutôt prêts à revenir travailler entre 3 et 4 jours par semaine au bureau. C'est-à-dire que le télétravail est plutôt promu sur 1 à 2 jours maximum. Et ça, ce n'est pas de nature à changer fondamentalement.
Ça, pour vous, c'est gérable. 1 à 2 jours, mais pas plus.
1 à 2 jours, ça, c'est ce qu'on voyait déjà un petit peu. Hein.
On comprend, 1 à 2 jours, on ne déménage pas forcément si on n'est pas là pendant 3 jours, plus le week-end, ça vaut peut-être le coup de commencer à réfléchir à sa résidence principale. Où est-ce qu'on va travailler?
Alors ça, effectivement, ça a des conséquences. Alors les conséquences qu'on peut nous anticiper, c'est qu'un certain modèle de bureau va changer. Et que très clairement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les grandes entreprises continueront à mettre leurs sièges sociaux dans les grandes agglomérations, à Paris, en première couronne. Et que le bureau de demain, c'est clairement un bureau moderne, flexible, capable de juguler, on va dire, les différentes problématiques, à la fois le besoin d'espace, de réunion, mais la distanciation sociale. Voilà.
Et bien sûr, j'imagine qu'aujourd'hui, donc, vous investissez dans ces bureaux de demain.
Exactement, exactement. Et nous, ça a toujours été notre conviction unique et forte. On a une SCPI de bureaux qui n'est uniquement investie que dans ces bureaux de grande taille, sièges sociaux, Paris, première couronne. Donc on est vraiment très droit dans nos bottes sur cette typologie d'investissement.
On continue à parler dans un instant justement de ces problématiques. Hein. Est-ce qu'il faut toujours investir dans l'immobilier en direct ou en indirect via les sociétés civiles de placement immobilier, on précise, pour les SCPI. Mais tout d'abord, on va se pencher avec notre séquence reportage sur la possibilité d'acheter du neuf avec 40% de rabais. Regardez, on se retrouve tout de suite après.
Alors, il est donc possible aujourd'hui d'acheter dans le neuf avec un rabais moyen de 40%. Par quel miracle?
Aujourd'hui, le démembrement de propriété, qui est le fait de pouvoir acheter un bien immobilier, un appartement, une maison, c'est une solution que les notaires ont créée. Donc, ce n'est pas un produit, c'est une solution patrimoniale adaptée à l'immobilier résidentiel, entre autres dans notre cas. Vous achetez un bien et vous n'acquérissez que la nue propriété. Et en face de vous, vous avez un usufruitier. Nous choisissons, au travers du groupe Action Logement, notamment des bailleurs effectivement sociaux, mais on pourrait très bien demain avoir face à nous un bailleur privé qui d'ailleurs nous permettrait de procéder à un démembrement sur des durées de l'ordre de 10 ans, alors que dans le cadre d'un bailleur social, on travaille plutôt en province sur une durée de nue propriété d'une quinzaine d'années, donc d'un usufruit de 15 ans, locataire présent dans les lieux. En première et deuxième couronne de Paris, qui est essentiellement notre cœur de cible, 17 ans. Et en général, et de plus en plus souvent dans Paris, 20 ans. La décote de 40% dont vous parlez, elle est essentiellement due au fait que le nu propriétaire, par nature, ne perçoit aucun revenu, mais, et c'est tout à fait logique, n'a aucune charge non plus. Ni taxe d'ordure ménagère, ni taxe foncière, ni quoi que ce soit. Aucune remise aux normes, aucun travaux. Pendant la totalité, tout est à la charge de l'usufruitier.
Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de revenu locatif en face de cet investissement. Donc à qui s'adresse précisément ce type d'investissement immobilier?
Nous adressons à un public extrêmement large. D'une part, nous adressons à des investisseurs épargnants qui sont en constitution de patrimoine et qui veulent bénéficier d'un effort d'épargne mensuel pour pouvoir justement rembourser un emprunt et acquérir un bien, toujours grâce à cette décote de plus de 40%. Par ailleurs, il y a des investisseurs qui, eux, sont en âge plus mûr, qui ont déjà constitué un patrimoine et qui, dans le cadre de ce patrimoine, se retrouvent avec des crédits déjà ouverts il y a quelques années qui arrivent en fin de vie et avec de plus en plus de revenus fonciers qui viennent gréver leur fiscalité.
Et à la fin de cette période de démembrement, comment ça se passe? Est-ce que je récupère l'appartement? Dans quel état?
Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr de récupérer l'appartement des membres. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Les groupes qui ont initié Pearl notamment et qui ont fait de leur mieux, parfois se sont heurtés à quelques locataires de mauvaise foi. Aujourd'hui, Nupro Select fait très attention de se positionner sur des appartements type familiaux mais de petite taille, type T2, T3. Et lorsque les communes, notamment dans les Hauts-de-Seine, nous imposent des T4 et T5, nous les prenons volontiers, mais à ce moment-là, nous proposons la colocation.
Non, au chapitre du rendement, à quel type de rendement je peux m'attendre avec cet investissement?
La nue propriété, par nature, ne sert aucune rentabilité au nu propriétaire. En revanche, grâce à la décote, on va calculer ce que l'on appelle un TRI, un taux de rendement interne, sur une durée. Ce fameux taux de rendement interne, grâce à la décote de 40% sur une durée de 15 ans, est de 3,47% triple net par an. Pas de taxes foncières, pas d'impôts, rien du tout. Lorsque l'on est, c'est notre pratique, c'est notre quotidien chez Nupro Select, à 70% de notre offre sur Paris 1ère et 2ème couronne depuis bientôt 10 ans, les marchés ont connu une telle évolution qu'aujourd'hui je proposerai et je n'oserai pas faire de la spéculation parce que je ne sais pas comment l'évolution des marchés vont se tenir dans les années qui viennent, mais à aujourd'hui nous sommes sur des taux de rendement interne qui sont pharaoniques. Puisque vous avez à l'époque des investisseurs qui ont acheté à 7000 euros du mètre carré, plus la décote de 40%, des valeurs au mètre carré qui dépassent les 10 000.
Et voilà Christophe Lachaud, PDG de Nupro Select, hein, qui nous parle de rendement faramineux. Là, on l'a bien entendu, Julien.
Oui,
alors évidemment, il y a des conditions.
Des prix aussi, hein, depuis 10-15 ans. Mais
voilà. Messieurs, une petite réaction à ce qu'on vient d'entendre. Monsieur Nara, Emmanuel Nara.
Alors, Haussmann Patrimoine. Chez nous, chez Haussmann Patrimoine, on a toujours été grand fan du démembrement de propriété. Je suis toujours un peu surpris quand je vois des titres autour de la nouveauté. C'est nouveau, le démembrement de propriété. Moi, j'ai commencé mon activité de conseiller en gestion de patrimoine en 2004. C'est tout de suite ce que l'on a mis le plus en avant dans l'immobilier. Et depuis 2004, c'est de loin le dispositif qu'on vend le plus à nos clients, loin devant les autres produits de défiscalisation. Peut-être plus grand public.
Bon, on rappelle peut-être quand même les conditions. On a vu que ça s'adressait peut-être pas à tous les publics. Il faut déjà peut-être une certaine maturité dans la constitution de son patrimoine. Peut-être déjà, évidemment, sa résidence principale ou des liquidités. Ou comme a dit Christophe Lachaud, donc le patron de Nupro Select, avoir un crédit qui s'éteint, c'est-à-dire peut-être dans une deuxième partie de constitution de patrimoine.
Oui, alors le fait qu'un crédit s'éteigne, ce n'est pas une condition sine qua non. Par contre, c'est vrai que pour bénéficier à plein du dispositif, il faut remplir un certain nombre de conditions. Il vaut mieux être déjà dans des tranches d'imposition confortables, voire élevées. Si en plus, on est à l'impôt sur la fortune immobilière, c'est la cerise sur le gâteau.
Ça sort, ce n'est pas considéré dans le patrimoine.
On le sort de sa déclaration purement et simplement. Donc quand on voit le régime fiscal globalement de l'immobilier, si vous êtes dans des tranches d'imposition élevées, que vous ne déclarez plus de revenus fonciers. Donc, sur vos revenus fonciers, vous pouvez perdre les deux tiers de vos revenus. Donc, vous les transformez en plus-value, finalement, puisque quand on parle de rabais, là aussi, ça me dérange toujours, parce qu'il n'y a pas de cadeau. Hein. C'est le résultat d'une équation financière, mathématique, qui fait que, étant donné qu'on renonce à des flux de loyers qui serait perdu pour les deux tiers en impôts, on va transformer ça en décote. Et cette décote, en se résorbant avec le temps, va générer une plus-value.
Et sans impôts.
Et pour le coup. Sur le très long terme, effectivement, et ça, c'est la magie de l'immobilier sur le long terme aussi, c'est qu'il y a des abattements pour durée de détention, ce qui fait qu'à la fin, on peut payer très peu, voire presque pas d'impôts. Et on est loin donc du régime des revenus fonciers. Si en plus, on n'a pas payé d'impôts sur la fortune pendant des années, qu'on n'a pas eu de problème avec ses locataires, on ne s'est pas posé la question de savoir si l'encadrement des loyers allait faire baisser ou pas le TRI de l'opération, le taux de rendement interne, c'est quand même très, très confortable. Et c'est un dispositif qui me plaît énormément parce que c'est un dispositif qui est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il y a deux parties prenantes dans ce type d'opération. Il y a une personne qui achète l'usufruit et une personne qui achète la nue propriété. Et la fiscalité de chacun fait que les deux sont gagnants. Et c'est là que, finalement, les intérêts étant alignés, le dispositif nous plaît vraiment beaucoup.
Et le bailleur en face, c'est souvent un organisme de 1% logement, voire HLM. Donc il peut y avoir aussi un aspect
Un aspect social.
Social, oui, développement durable, enfin oui, voilà, oui. Hein, donc aussi dans ce.
Et puis très concrètement, comme il y a un acheteur pour l'usufruit, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin locatif. Imaginez que quelqu'un achète l'usufruit et qu'il n'y ait pas de marché locatif. C'est impensable. Donc c'est toujours des opérations qui sont dans des zones où il y a un vrai besoin de logement et où. L'emplacement est top.
On alors même pas... si le problème apparemment c'est peut-être à la libération, enfin à la reconstitution de l'usufruit quand on récupère la pleine propriété, quand on récupère l'appartement, c'est est-ce que je peux vraiment faire ce que je veux de l'appartement, c'est-à-dire que le locataire en place ne va pas rester en place.
Le problème est le même si vous vous achetez un appartement et que vous le louez à un locataire. Dès lors qu'on est dans l'habitation, les locataires bénéficient d'un certain nombre de règles de protection. Maintenant, quand on le fait dans le cadre d'opérations de démembrement de propriété avec des professionnels de l'immobilier dont le métier justement c'est de prévoir toutes les clauses juridiques et les précautions nécessaires pour éviter que ce problème-là soit un problème systématique. Bon, je ne dis pas que ça peut arriver de temps en temps.
Mais comme bon, vous en faites depuis du coup 17 ans, ouais. Pas de sinistre,
aucun. Bon, en plus, voilà. c'est des produits qu'on peut revendre très facilement parce qu'il n'y a pas eu d'avantage fiscal à l'entrée, donc on n'a pas d'engagement à rester jusqu'au bout. Mm-hmm. Si on change d'avis en cours de route, on peut revendre. Et on vend d'autant plus facilement que les opérations qui sont proposées sur le marché, en règle générale, sont sur des durées assez longues, de 12 à 17 ans. Et parfois, il y a des investisseurs qui sont pas très loin de l'âge de la retraite et qui se disent 12 ans, c'est peut-être quand même un petit peu long. Et quand ils peuvent trouver un bien qui a une durée résiduelle de démembrement de 7, 8, 5, 6 ans, ben ils sont très contents. Et donc, on n'a eu aucun problème de liquidité à la revente.
Bon, si on ne veut pas investir en direct, est-ce qu'on peut faire des SCPI en démembrement,
Alors Antoine Depigny ? Oui, effectivement, on peut faire des SCPI en démembrement. Nous, on a une SCPI en démembrement qui s'appelle Patrimo Croissance et qui fait exactement ça. C'est-à-dire qu'on achète des biens, on achète la nue propriété de biens. Alors, à Paris, en première couronne, dans des localisations, on va dire, démographiques tendues. Et ça permet, effectivement, d'avoir exactement le même type d'avantages, alors avantages fiscaux et d'avantages, on va dire, en termes de TRI, mais de façon mutualisée, donc avec, évidemment, une mise de départ qui est beaucoup plus faible. Et cette SCPI est quand même, aujourd'hui, aux alentours de 100 millions de capitalisation. Donc, c'est un succès qui est assez important.
Et on retrouve, alors, c'est pas un rendement, c'est une reconstitution de pleine propriété, mais quelles sont les performances de ces SCPI?
Exactement, effectivement, le TRI, en tout cas la performance est d'environ 5%, et ça de façon très régulière dans le temps. On bénéficie effectivement de la hausse continue et de la valorisation et du taux du pas de remembrement. Donc on est vraiment sur une performance qui est très intéressante. Et c'est alors au-delà de ça, on peut aussi évidemment acheter la nue propriété de part de SCPI. Ça, c'est également un autre montage, c'est un autre débat, mais c'est aussi un montage patrimonial qui peut être très intéressant.
Absolument, il y a deux façons de le faire. Soit le gérant de la SCPI achète lui-même des actifs démembrés et va distribuer très peu de revenus fonciers pour faire de la plus-value, ou bien l'investisseur lui-même va acheter des parts de SCPI démembrées, et on peut le faire sur toutes sortes de durées. Ça peut être là, pour le coup, contrairement à l'immobilier en direct, on peut choisir des durées beaucoup plus courtes, de l'ordre de 3, 4, 5 ans. Il y a toute la granularité entre 3 et 15 ans est possible. Et là où le système est vraiment avantageux, c'est que quand vous achetez un actif avec une décote, par exemple, vous achetez un bien qui vaut 60%, donc vous avez 100% des mètres carrés, mais vous avez payé 60% du prix. Si le marché monte, le marché va progresser sur 100% de la valeur du bien. Donc vous allez avoir un effet cumulatif de la reconstitution de valeur de la nue propriété en pleine propriété, plus la hausse, ce qui fait un levier considérable.
Il nous reste quelques minutes, on a beaucoup d'autres questions. On va faire donc du coup des réponses courtes. Alors, c'est vrai qu'on redécouvre un peu cette nue propriété, périodiquement, j'ai l'impression, voilà, comme on la présente comme une nouveauté. Des vraies nouveautés, par exemple, c'est les résidences gérées en co-living ou encore les fonds viagers mutualisés. Que penser de ces nouveaux types d'investissements immobiliers, Emmanuel Lara?
Alors, ça fait quelques années, effectivement, qu'on voit émerger ces nouveaux modes de vie. Je pense que ça correspond bien à l'ère du temps, à notre époque. C'est une façon indéniable d'améliorer le rendement. Donc, c'est intéressant. Ça fait partie des manières astucieuses, je dirais, d'investir dans l'immobilier. Avec du co-living ou du viager, on peut augmenter le rendement naturel.
Alors, le co-living, c'est des sortes de résidences avec service, hein, qui s'adressent à des jeunes actifs.
Absolument, absolument. Et du coup, vous transformez une grande surface résidentielle dont les rendements sont traditionnellement plus faibles que les petites surfaces, finalement, en un ensemble de petites surfaces qui se louent plus cher que l'appartement
familial
traditionnel.
C'est des propriétaires en direct qui peuvent transformer des biens comme ça, ou il y a des produits qui permettent
Certains le font. Mais c'est quand même une activité qui est plus proche finalement de l'immobilier avec service et c'est plus adapté à des professionnels qui sont capables d'apporter justement cet ensemble de services. Et puis c'est une gestion plus active parce qu'il y a davantage de rotation. C'est pas la famille avec deux enfants qui s'installe pour 10 ans.
Bien sûr. On va terminer avec l'inévitable question sur l'ISR, peut-être pour vous, Antoine de Pigny. Est-ce que vous prenez en compte cet aspect et est-ce un gage de performance? Puisqu'il y a toujours cette question, ISR, c'est bien, je fais du bien à la planète, l'épargne va servir et fait du sens, mais quid de la performance?
Alors oui, évidemment, la démarche ISR, elle est vraiment au cœur même de la création de Primonial REIM. Depuis 2012, on a vraiment créé cette société sur cette démarche et on l'a surtout traduit dans les stratégies d'investissement de nos fonds. Donc Patrimo Croissance qui achète la nue propriété de biens et qui loue l'usufruit à des bailleurs sociaux. Primovie qui est la SCPI de santé et d'éducation, donc qui soutient vraiment cet effort collectif. Et depuis cette année, la labellisation ISR, donc puisque le label ISR immobilier a été publié cette année, donc la labellisation de Primopierre. On est, nous, mais intimement persuadés que la prise en compte de ces critères, donc ISR, ESG, est créateur de valeur. Si je dois prendre un exemple tout bête, les bâtiments les plus verts, ceux qui respectent le plus tous ces critères extra-financiers sont ceux qui se louent le mieux. C'est ceux qui se louent le plus vite et pour le plus longtemps. Donc pour l'investisseur, c'est un gage de moindre turnover et c'est un gage de liquidité et de création de valeur dans le futur. Donc c'est vraiment un pari gagnant-gagnant qui pour nous est totalement essentiel.
Ça veut dire, dans la logique d'investissement, ça veut dire que vous achetez que des immeubles aux dernières normes énergétiques, c'est ça? Du neuf de neuf, ou alors c'est plutôt des immeubles à restructurer et c'est là qu'il y a peut-être le potentiel d'appréciation?
Alors ça dépend, on a deux approches. Il y a une approche best in class, ouais. Une approche best in progress. Donc sur, par exemple, le Primopierre, c'est best in progress. On s'engage à faire progresser la notation extra-financière de nos actifs. On a d'autres fonds qui, eux, sont best in class et donc n'achètent que des actifs qui sont, on va dire, au top des dernières certifications. Donc il y a vraiment les deux approches. L'approche la plus commune, c'est best in progress, c'est de faire progresser la notation et surtout d'être transparent dans la communication de ces progrès. Donc, vous trouverez dans tous les nouveaux fonds labellisés ISR un reporting très précis sur l'ensemble de ces critères. Nous, par exemple, on a 90 critères qu'on classe en thématique et on va faire progresser cette note et la communiquer de façon très, très transparente.
Voilà, on en sait un petit peu plus sur ces placements immobiliers, on l'a compris, on est toujours sur une bonne dynamique, on a énormément de solutions, les SCPI, la nue propriété, des nouveaux modes d'investissement, n'hésitez pas à aller voir vos conseillers en gestion de patrimoine ou aller en voir un tout court, si vous n'en connaissez pas encore, il y a des solutions pour peu qu'effectivement vous ayez un petit peu d'épargne ou une capacité d'épargne. Un grand merci Julien Bouissou pour avoir préparé cette émission. Je remercie également à nos invités, Antoine Depigny, directeur du développement de Primonial, et Emmanuel Nara, président du cabinet de gestion de patrimoine, Haussmann Patrimoine, c'est à Paris.
Oui, merci. Et à Montpellier aussi.
Et à Montpellier, parfait. Merci messieurs. Dans un instant, on passe à la suite. C'est Pierre Sabatier, le coup de cœur, le coup de gueule.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le coup de cœur, coup de gueule.
Ce mois-ci, le coup de gueule, c'est encore une fois en fait pour ces périodes de confinement et ces nombreux départements qui sont aujourd'hui confinés, surtout l'impact que ça a sur ce qu'on appelle l'immobilier commercial de pied d'immeuble. Là, on est vraiment face à une classe d'actifs. Alors, je sais que l'émission était spécialisée sur l'immobilier d'investissement. On est face à une classe d'actifs qui souffre terriblement, qui n'a peut-être jamais autant souffert qu'aujourd'hui. Souvent, on fait l'analogie avec la crise du Covid et la Grande Dépression des années 30. Il faut être honnête, la réalité, c'est que nous n'avons pas du tout subi les mêmes conséquences au quotidien, sauf pour ces commerçants qui, ont loué les pieds d'immeubles dans beaucoup, beaucoup de grandes villes aujourd'hui qui sont confinées et qu'on force à fermer. Là, il va y avoir énormément de casses. Pour le moment, on a une économie sous cloche, on a une économie qui est soutenue, mais il faut faire très, très attention On a fait investir beaucoup de commerçants, beaucoup d'investisseurs dans ce domaine qui est l'immobilier commercial. Alors, bien sûr, on a l'immobilier commercial lié à la grande distribution et aux moyennes surfaces qui ont caracolé l'année dernière. Donc, c'est le bon côté des choses. Hein, lorsqu'on ferme les petits commerces, mais les gens qui doivent continuer en fait à subvenir à leurs besoins et donc ils s'orientaient vers ce qui était ouvert, à savoir les moyennes et les grandes surfaces qui caracolent. Par contre, attention sur tout ce petit commerce diffus et donc qui pourrait faire l'objet en fait de grandes difficultés à partir du moment où la sphère publique devra limiter les soutiens aujourd'hui affichés à l'ensemble de l'activité et des entreprises qui souffrent le plus, à savoir les petits commerces de détail. Donc attention, coup de gueule, mais surtout en fait grand cri d'alerte pour tout ce qui est immobilier commercial de pied d'immeuble. On n'est pas sorti de l'auberge. Qui plus est, et on pourrait aussi s'interroger sur l'impact à terme hein, d'un point de vue structurel du télétravail, si demain, lorsque on aura le bonheur de voir la crise en fait passer, on a au moins une journée de télétravail qui s'impose partout, ben, ça veut dire aussi pour ces commerçants qu'ils vont perdre ben, un jour sur cinq, ça fait 20% de flux de personnes potentielles, 20% de clients potentiels. Et donc il n'y a aucune entreprise qui survit et qui peut se permettre de payer des loyers lorsque son modèle économique doit faire sur la base de 100% donc, d'activité et voit son chiffre d'affaires potentiel baisser à 80 ou à 60. Donc énorme, on va dire, cri d'alerte sur ce sujet-là qui va être un sujet très difficile à gérer une fois qu'on aura le bonheur de voir la crise sanitaire passer, même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, donc le coup de cœur cette fois, c'est pour tout ce qui tourne autour de l'immobilier de la santé, où là, véritablement, on a un potentiel qui ne se dément pas, un potentiel structurellement là, qui est là conjoncturellement, qui sera là structurellement, tout simplement parce que nos populations sont en train de changer. Je crois que les gens n'ont pas bien saisi en fait que le vieillissement de la population, dont on parle depuis très 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 longtemps maintenant, ne va que commencer à avoir des effets aujourd'hui sur la société française, pour une raison toute simple. Hein, le début du baby boom, c'est 1946. Rajoutez 75 ans à 1946, ça vous amène à 2021. Et donc la réalité, c'est que le vieillissement à travers l'impact que ça aura sur le besoin en logement adapté aux personnes qui vieillissent et qui commencent à avoir quelques petits handicaps, on ne parle pas de lourds handicaps ou d'EHPAD, on parle vraiment de petits handicaps pour les seniors, ça commence maintenant. Hein, la cohorte des 75-84 ans en France n'a pas augmenté au cours de la décennie 2010, elle va augmenter de 45% dans les 10 ans qui viennent. Donc là, on a un véritable sujet, c'est un coup de cœur parce que le besoin ne va pas se démentir. Maintenant, c'est aussi un challenge pour les producteurs, ceux qui vont devoir construire en fait l'offre de services et l'offre de logement à destination en fait de ces personnes qui ont toujours des désirs, toujours des besoins qui sont encore dynamiques, mais qui éprouvent simplement quelques difficultés qui leur rend plus difficile le fait de rester à la maison et donc qui vont avoir besoin en fait d'une offre de logement particulière qui leur soit adaptée avec du service, avec des infrastructures, tout en restant connectés et en essayant d'éviter les ghettos d'âge qui sont la grande hantise de la plupart en fait des gens qui vieillissent. Donc le coup de cœur, très clairement, c'est l'immobilier de la santé à destination des seniors, mais surtout celui qui va arriver. Parce que là, pour le coup, on aura véritablement un marché extraordinaire qui va s'ouvrir, à la condition de bien avoir saisi quels étaient les désirs et les besoins de ces personnes-là pour qu'elles aient, non, qu'elles ne se sentent pas obligées d'y aller, mais qu'elles aient envie d'y aller.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Le grand rendez-vous de l'épargne numéro 14 avec la rubrique que vous attendez tous, ça vous concerne. Et on va animer cette rubrique en compagnie de Thibault Lamy. Bonjour Thibault.
Bonjour Fabrice.
Journaliste au magazine Capital. Alors notre première experte, c'est Nathalie Cousigou-Suaz. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notaire à Paris. Vous êtes venue avec le Code civil.
Toujours.
Ne me quitte pas. Le gros livre rouge que vous connaissez voilà. Bien entendu par cœur. On a une première question. C'est une lectrice, Isabelle. Qui vous interpelle.
Tout à fait, Fabrice. Ouais, c'est une lectrice, donc Isabelle. Elle a été contactée par un notaire qui lui explique qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Mais en même temps, elle a entendu parler d'escroquerie avec des faux notaires et justement sur des contrats d'assurance vie. Alors, elle aimerait être sûre de ne pas se faire arnaquer.
Elle a tout à fait raison, Isabelle, parce qu'effectivement, il y a eu des escrocs qui ont usurpé l'identité de notaire pour faire des appels à des personnes et leur dire « Voilà, vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, donc vous allez recevoir les capitaux, mais pour cela, il faut que vous nous envoyiez telle somme d'argent, qui pour ouvrir le dossier, qui pour... Et il s'est révélé que c'était une arnaque, c'était une usurpation d'identité. Les notaires n'étaient absolument pas concernés par cela. À telle enseigne d'ailleurs que le président du Conseil supérieur du notariat est venu au JT de 20h, je crois, de TF1, pour alerter les gens et leur dire d'être très vigilants. Donc que faire si vous êtes contacté et que vous soupçonnez une usurpation d'identité? Déjà, si c'est une usurpation d'identité, c'est pas la peine d'aller regarder dans l'annuaire des notaires qui y sont tous, bien sûr, parce que si c'est une usurpation d'identité, bah, le notaire dont le nom a été usurpé figurera bien dans l'annuaire. Donc il y a deux choses à faire. C'est soit appeler l'étude du notaire, son téléphone est là dans l'annuaire, ou appeler la chambre des notaires pour vérifier... Appelez le notaire pour vérifier que c'est bien lui qui vous a envoyé ce courrier. Il faut avoir en tête que la plupart des notaires ont des adresses mail qui se terminent par @notaire.fr, hein, ou pas d'autres, ou paris.notaire.fr, par exemple, pour tout ce qui est la région parisienne. Parfois, c'est des noms de sites, mais vous avez notaire.fr. Donc ça, il faut être vigilant quant à l'adresse Internet. Et surtout, si le notaire vous demande de virer une somme d'argent, ce qui peut paraître étonnant, donc il faut l'appeler avant pour lui demander pourquoi, eh bien, c'est toujours sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations française, c'est pas un autre compte. Les notaires sont officiers publics, officiers ministériels, bien que profession libérale, et les comptes dont ils sont dépositaires de fonds sont à la Caisse des dépôts et consignations.
Puis on imagine aussi qu'avant de demander un virement, par exemple, un notaire s'arrange pour rencontrer le bénéficiaire.
Mais bien sûr, exactement. Et normalement, ce n'est pas un notaire qui vous contacte pour une assurance vie, c'est plus la compagnie d'assurance, même si bien sûr ça peut arriver.
Parce que dans tous les cas, on peut recommander de ne pas envoyer d'argent, parce que c'est quand même extrêmement rare. Et d'ailleurs, le principe de beaucoup d'arnaques, c'est déjà, on va vous envoyer quelque chose, alors que vous ayez hérité d'un oncle défunt. C'est souvent la base de ces arnaques qui vous demandent...
Bien sûr.
Déjà, pour commencer d'envoyer de l'argent, ça, c'est jamais un bon signe.
Mais bien sûr, on a tous reçu en tant que particulier, « Bonjour, je suis coincé dans tel pays, je suis bénéficiaire d'une fortune importante, si vous m'aidez, enfin des choses invraisemblables, vous aurez 10% de cette somme, mais il faut m'envoyer des sous. » Mais c'est ce genre, la ficelle est plus ou moins grosse. Donc là, c'était une ficelle assez élaborée, parce qu'effectivement, ils avaient pris le nom de vrai notaire. Et le courrier avait la vraisemblance d'un courrier de notaire. Donc il ne faut pas non plus s'affoler à chaque fois que vous recevez un courrier de notaire, mais... Effectivement, il ne faut pas envoyer d'argent à première demande, parce que le notaire ne vous demandera pas d'argent ou éventuellement une provision pour le dossier. Enfin, il vous expliquera pourquoi.
Voilà. On peut donner le même conseil d'ailleurs pour toutes les professions qui sont liées à une succession.
Mais bien sûr.
Les généalogistes de la même manière.
Faut pas mais évidemment, il faut être très vigilant là-dessus.
Sur l'usurpation d'identité, ça vous est arrivé?
Ben moi, malheureusement, j'ai eu un cas et j'en ai été très désolée parce que ça touchait des gens qui étaient vulnérables financièrement. Mais enfin, de toute façon, l'escroquerie, qu'on soit riche ou moins riche, est toujours dramatique. J'ai un jour eu au téléphone des gens que je ne connaissais pas, qui venaient de toute la France, j'en ai quand même 5, qui me disaient « Ah, mais Maître Cousigou, vous êtes une femme, parce qu'en fait, il s'est avéré que ces gens-là, une personne avait usurpé mon identité sur Internet sans que je le sache, et proposer des prêts, alors que les notaires, bien sûr, ne font pas de prêts. Enfin, ils ne mettent pas les gens en relation, ils ne prêtent pas d'argent. Et en fait, pour monter ce prêt, qui c'était des prêts de l'ordre de 10 000, de 20 000 euros, eh ben, l'arnaqueur demandait pour constituer le dossier 500 euros. Il a quand même escroqué. J'ai eu contact de 4 ou 5 personnes. Vous voyez, à chaque fois, il leur demandait 500 euros. Donc moi, je suis tout de suite allée porter plainte pour usurpation d'identité. Mais ça a été malheureusement sans suite. Et je me suis aperçue en plus, c'était dramatique, que ces gens que j'essayais d'aider avaient honte d'avoir été escroqués, avaient eu honte d'être tombés dans les filets de cette personne et ne souhaitaient pas aller porter plainte. Ce qui m'a doublement attristée parce que je me suis dit, non seulement ils ont été escroqués, mais en plus, il n'y aura même pas de sanction pour ce sournois et finaud, comme disait oui.
Exactement. Merci, voilà. Maître Nathalie Cousigou-Suas, notaire à Paris, notre première experte. On continue tout de suite avec une deuxième question.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Deuxième question d'internaute ou d'auditeur tout de suite avec une deuxième experte. On accueille Charlotte Tamer. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Vous êtes directrice conseil chez Yomoni et c'est une lectrice, Sarah, qui vous interpelle.
Oui, alors c'est Sarah, elle veut soutenir les entreprises françaises avec son plan d'épargne salariale. Alors elle a entendu parler des fameux fonds relance et elle aimerait savoir si elle peut se servir de son plan et arbitrer son épargne sur un de ces fonds. Et si oui, comment ?
Alors, tout d'abord, on va parler du label Relance, qui est un nouveau label qui est sorti suite à la crise du Covid pour venir soutenir en fait, économiquement les TPE, PME et ETI. Donc en fait, c'est des fonds qui vont directement investir dans des sociétés avec une tendance plutôt française. Et en fait, certains fonds, donc toute une catégorie de fonds, à savoir les SICAV, les FCP, mais également les FCPE, qui sont les fonds éligibles à l'épargne salariale. Il y a aussi d'autres fonds type les FIP, les FCPR. Enfin, il y a toute une catégorie de fonds qui sont éligibles à ce label relance à condition qu'ils respectent certains critères. Et en fait, il se peut que certains fonds soient dans l'épargne salariale. Tout d'abord, en fait, cette personne doit vérifier qu'il y ait bien des fonds labellisés relance au sein de son épargne salariale. Et si tel est le cas, elle va pouvoir y avoir accès. Pour autant, attention, le label, en fait, certifie juste que le fonds est lié en fait à la reprise de l'activité économique, enfin que les fonds vont être destinés à la reprise de l'activité économique. Est-ce que c'est un critère de qualité ou un critère de performance ? La réponse, c'est non. L'initiative est bonne hein, autour de ces fonds relance, mais attention, un fonds reste un fonds. Et donc, avant d'investir, on lui recommande fortement de télécharger le document qu'on appelle DICI. C'est le bulletin d'information d'un fonds. Je vous rassure, ce document fait 2 pages. Donc, un bon investisseur, c'est un investisseur éclairé. Donc, avant d'investir dans un fonds, il faut bien vérifier donc, est-ce qu'il a le label ou pas. Et ensuite, aller un petit peu dans le détail du fonds. Il y a 2 pages qui constituent le bulletin officiel, enfin le document officiel du fonds. Et en fait, il faut regarder le niveau de risque. Donc vous avez une échelle, c'est assez simple, graduelle, qui va de 1 à 7. 1 étant le moins risqué, 7 le plus risqué. Donc en fait, avant d'investir, cette personne doit se demander pendant combien de temps elle investit. Est-ce qu'elle est partie sur 5 ans, comme le veut la règle standard du plan d'épargne salariale, ou est-ce qu'elle part sur une durée d'investissement un peu plus courte parce qu'elle rentre dans un des 4 déblocages anticipés. En gros, plus le fonds est risqué, plus la durée de détention de cette personne à travers son plan d'épargne salariale doit être longue. Donc il faut faire attention à ça. Il faut voir, dans ce label, il y a quand même différents types de fonds qui existent. Il y en a qui vont plus être axés sur les sociétés cotées et d'autres sur des sociétés non cotées. Rappelons-le encore une fois, le fait d'être coté fait que la société est généralement un peu plus stable que les plus petites sociétés. Donc il peut y avoir des différences de risque, de volatilité à travers le choix qu'elle fait. Donc ça, il faut qu'elle en ait conscience aussi. Et puis enfin, il faut qu'elle regarde les frais. Donc tout ça est relaté à travers ce document d'information. Mais rappelons-le, l'épargne salariale, ce n'est pas une épargne en plus, ce n'est pas un cadeau que fait la société. Hein. C'est bien de l'argent qu'on investit. C'est un support d'investissement au même titre que l'assurance vie, que le PEA, que le compte titre. Donc il faut apporter la même rigueur et les mêmes critères de sélection que quand on investit en dehors de son entreprise.
D'accord, donc prudence quand même avant d'arbitrer.
Oui, et en plus, on est plutôt effectivement sur des fonds actions qui sont plus proches du capital investissement que des fonds un petit peu plus standards qu'on peut trouver auprès d'une société de gestion, de son CGP ou de sa banque. Donc oui, attention, on peut gagner beaucoup d'argent, on peut en perdre beaucoup. À titre d'exemple, depuis le mois à peu près d'octobre 2020, il y a plus de 100 fonds qui ont été labellisés relance. Les gens aiment bien avoir ce type de label parce que ça met l'investisseur en confiance, mais l'investisseur ne doit pas être dupe. Il faut savoir que depuis la création de ce label, certains types de fonds font plus de 30% de performance, alors que d'autres font moins 10%. Donc l'amplitude est large, il y a un large choix de fonds, mais il faut garder ses réflexes d'investisseur, à savoir dans quoi on investit concrètement, quel est le niveau de risque, quelle est ma durée d'investissement, quel budget j'investis. C'est une question de budgétisation aussi, au même titre que lorsqu'on achète un bien immobilier. Vous achetez un portefeuille boursier. Mmh. Et enfin, quels sont les frais ? Parce que les frais, bien évidemment, vont avoir une répercussion directe sur la performance finale.
Est-ce qu'on peut recommander justement à ces investisseurs qui se posent la question de peut-être diversifier aussi sur plusieurs fonds relance ? Vous parlez de disparité aussi de performance.
Bien sûr, au même titre qu'on le fait dans un portefeuille plus traditionnel ou dans des secteurs d'investissement peut-être plus traditionnels, on peut diversifier à condition qu'il y ait plusieurs fonds relance disponibles à travers l'épargne salariale. En tout cas, ce qu'on peut lui recommander, c'est de peut-être pas mettre tous ses avoirs dans un seul fonds relance et effectivement d'avoir une allocation un peu diversifiée avec des choses peut-être soit un peu moins volatiles, un peu plus sécurisées ou un petit peu moins sectorialisées. Voilà.
diversification, oui, le mot-clé. Merci Charlotte, Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. On passe à la troisième et dernière question.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Troisième question des internautes à la rédaction de Capital, et c'est pour Stéphane Absolu. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur associé chez Pixis Conseil. Et Thibault a la question de Baptiste pour vous.
Oui, alors Baptiste, sur la demande de sa banque, hein, faut le préciser, il a souscrit un contrat d'assurance vie pour garantir son crédit immobilier. Alors, il voudrait savoir si les frais qui sont liés à la souscription de son contrat peuvent être intégrés dans le TEG. Peut-être déjà expliquer ce qu'est un TEG.
Exactement, le TEG, sauf pour les fans d'acronymes, le TEG, c'est le taux effectif global, d'ailleurs qu'une appellation qui n'existe plus, puisque maintenant on parle de TAEG, taux annuel effectif global, qui a des modalités de calcul qui sont un peu différentes d'ailleurs. Il faut savoir que le TAEG, en fait, intègre le coût du crédit tel qu'il peut être présenté par une banque et intègre l'ensemble des frais qui sont liés à ce crédit. Donc les assurances, les commissions, on va le voir peut-être dans le cas de Baptiste, les coûts liés à la souscription de son contrat d'assurance vie. Et on va prendre l'ensemble de ces frais-là qui vont déterminer du coup le taux annuel effectif global. Le taux annuel effectif global, c'est une équation, alors je vous fais grâce du calcul de l'équation, qui est liée à une norme européenne, hein, donc fixée par le Parlement européen, et qui aujourd'hui sert de base donc pour déterminer le coût du crédit. Premier point. Deuxième point par rapport à la question de Baptiste, c'est qu'il a utilisé l'assurance vie pour garantir un contrat d'assurance, pour garantir un prêt immobilier dans son cas de figure. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose à la base, utiliser, nantir un contrat d'assurance vie est une bonne stratégie en termes de choix de garantie. Maintenant, par rapport à la question de Baptiste, on a une nouvelle donne qui a été mise en place par la Cour de cassation, puisqu'on a un arrêt du 20 janvier 2021, donc tout récent, qui est venu justement par rapport à cette notion de contrat d'assurance vie donné en garantie, donner une nouvelle règle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de Baptiste, il faut bien distinguer selon que ma banque m'a demandé de souscrire un contrat d'assurance vie pour le donner en garantie de mon prêt, ou j'ai déjà un contrat d'assurance vie et je vais nantir ce contrat d'assurance vie. Et dans cet arrêt de la Cour de cassation, ce que dit la Cour, c'est que si le prêt est une mon contrat d'assurance vie, la souscription de mon contrat est une condition d'octroi de mon prêt, dans ce cas-là, il est lié à mon prêt. Et du coup, les frais qui sont liés à la mise en place de cette assurance vie doivent être intégrés dans le calcul de mon TAEG.
On parle de quels frais à ce moment-là, d'ailleurs, spécifiquement ?
Ça a été clairement précisé dans l'arrêt de la Cour de cassation. Ce que dit l'arrêt, c'est que le premier versement, par exemple, qui est demandé sur ce contrat d'assurance vie et tous les frais qui sont liés à la souscription de ce contrat sont en fait des frais et des commissions qui doivent être intégrés dans le calcul du TAEG. Donc, ce qui peut avoir une conséquence, notamment si le premier versement qui est demandé est un versement relativement important, on va avoir cette prise en compte dans le calcul du taux annuel effectif global, ce qui peut avoir une incidence importante.
Alors, exemple, si c'est la banque, donc, on a bien compris, qui demande, les frais en général pour un contrat d'assurance vie sur les banques, c'est 4-5%. Ces 4-5% devront être intégrés dans ce calcul.
Exactement. L'ensemble des commissions et le premier versement, puisque c'est ce que détermine l'arrêt de la Cour de cassation, le premier versement et l'ensemble des commissions intègrent le calcul du taux annuel effectif global. Donc, c'est vrai que dans le cas de Baptiste, on se retrouve dans une situation où si son taux annuel n'a pas intégré ce coût-là, on est sur un taux annuel effectif global qui est erroné. Et la Cour de cassation, là encore, avait déterminé en mai 2015 qu'un taux annuel effectif global erroné est un taux nul. Donc l'incidence pour Baptiste, c'est qu'il se retrouve sans taux annuel effectif global. Et donc sans ce taux-là, ce qui va s'appliquer, c'est le taux légal, normalement. Le taux légal, je le rappelle, hein, lorsqu'on est dans le cadre de créances octroyées par des professionnels, hein, ce qui est le cas d'une banque, on est sur un taux, le taux du dernier semestre 2020, c'était 0,84. Donc il faut là aussi mesurer ce que peut être la conséquence pour Baptiste, ouais, de la détermination de ce nouveau taux.
Donc le risque, ça veut dire, est plutôt porté par la banque, en tout cas, ou par celui qui émet le crédit, d'être très très précis sur ce fameux TAEG, du coup.
Alors après, tout dépend de la négociation que vous aurez pu avoir avec votre banque, mais la plupart du temps, le risque est plutôt porté par la banque qui aura un TAEG qui est normalement plus élevé que le taux légal. Et donc, le fait de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des frais, l'ensemble des commissions, l'ensemble des versements, lorsqu'on est dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, pour calculer ce TAEG, va forcément lui être négatif.
Alors, une petite question peut-être sur ce TAEG. Est-ce qu'il est plafonné légalement ou la banque peut proposer un taux comme elle le souhaite?
Alors non, parce qu'en fait, c'est une équation. Donc, il n'y a pas un plafonnement.
Il n'y a pas de taux d'usure ou de choses comme ça qui rentrent.
Alors après, légalement, vous allez tomber dans le taux d'usure. Mais ça, c'est une définition légale du taux d'usure. Mmh. Donc, il va déterminer le plafond au-delà duquel on ne pourra pas aller. Maintenant, le TAEG, c'est l'application ni plus ni moins que d'une équation mathématique qui va prendre en compte l'ensemble de ces frais-là. Donc après, sauf à dépasser évidemment le taux d'usure, mais sinon on n'aura pas de plafond lié au TAEG lui-même.
D'accord. Bon. Et donc évidemment, si notre lecteur Baptiste avait souscrit son contrat avant et que ça n'a pas été demandé spécifiquement par la banque, là pour le coup...
Là pour le coup, c'est vraiment... C'est là où il faut bien comprendre la logique qui a été déterminée par la Cour de cassation. C'est que si on considère que ce contrat d'assurance vie est une condition posée par la banque pour l'octroi du prêt, elle considère que les deux sont liés. Elle a été très... D'ailleurs, il y a un arrêt de 2015... qui avait été rendu là aussi par la Cour de cassation, qui considérait que, à l'inverse, les commissions et le premier versement sur un contrat d'assurance vie ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du TEG à l'époque. Et pour la simple et bonne raison, c'est que ce contrat existait avant. Donc elle considérait qu'il n'était pas lié à la mise en place du prêt, que c'était juste un choix de la part du client de donner en garantie ce prêt. Et à partir du moment où c'est un choix qu'on ne lui a pas imposé, il n'a pas à être pris en compte dans le calcul.
Très bien, bon, on en sait un petit peu plus sur ce fameux TAEG, subtil, hein, mais je pense qu'il y a peut-être certains qui vont exhumer leur papier là, pour vérifier s'ils ne peuvent pas bénéficier de ce taux. Merci Stéphane Absolu, je rappelle que vous êtes directeur associé chez Pixis Conseil. Merci également à Thibault Lamy, journaliste chez Capitaine. On arrive au terme de ce grand rendez-vous de l'épargne. Un grand merci à Baptiste Pouchard, je ne sais pas lui, c'est peut-être lui qui a posé la question, notre ingénieur du son, pour la réalisation. On se retrouve dès le mois prochain avec Julien Bouissou pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne. Très bonne journée à tous.
Retrouvez le Grand Rendez-vous de l'Épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.